chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série Very Important, très importante, concernant la sainteté. Nous arrivons à l'étude numéro 24 et notre thème sera combattre la honte inappropriée. Mais il y a aussi la honte appropriée. Nous verrons tout cela tranquillement. Tout d'abord, la Sainte Bible dit en 2 Timothée chapitre 1 verset 12 « Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. » Et j'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. J'ai dit 2 Timothée chapitre 1 verset 12. Et notez encore Romains chapitre 10 verset 11. Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Romains chapitre 10, verset 11. Chers amis, si nous voulons avoir le genre de vie à laquelle le Christ nous appelle, c'est-à-dire une existence vécue dans la liberté, mais aussi fondamentalement empreinte d'amour et de sainteté, il nous faut comprendre la place qu'occupe la honte et savoir lutter contre ses effets paralysants. Commençons par une définition. La honte est une émotion douloureuse causée par la conscience d'une culpabilité, d'une déficience ou d'un comportement déplacé. La douleur que nous ressentons n'est pas causée simplement par nos propres manquements, mais par le fait de savoir qu'ils sont visibles par autrui. Illustrons maintenant chacune de ces trois causes, si vous voulez bien. Donc, les trois causes de la honte sont les suivantes. Considérons tout d'abord, premièrement, la culpabilité. Supposons que, agissant à l'encontre de votre conscience, vous décidez d'omettre certains renseignements en établissant votre déclaration de revenus. Pendant quelques années, vous ne ressentirez rien, parce que vous avez vécu cela de votre esprit et que vous ne vous êtes pas fait prendre. Mais c'est alors qu'un jour le fisc vous demande des comptes et qu'il apparaît publiquement que vous avez menti et fraudé. Pour autant que vous appartenez à une communauté chrétienne, une église, votre église, votre employeur et vos amis sont désormais au courant de votre culpabilité. C'est en raison de la réprobation de votre entourage que vous ressentez maintenant, à présent, la douleur de la honte. Voyons à présent, deuxièmement, la déficience. La déficience comme étant une des causes de la honte. Imaginons que vous participez aux Jeux Olympiques et que vous représentez un pays dans lequel vous figurez parmi les meilleurs coureurs du 300 mètres. Et voilà qu'aux Jeux Olympiques, vous vous retrouvez à concourir devant des milliers de spectateurs. Et la compétition est tellement rude qu'au moment où vous abordez le dernier tour de stade, vous avez un tour complet de retard. Oh oui, un tour complet de retard sur tous les autres coureurs. De sorte que vous êtes condamné à continuer la course totalement tout seul sous les yeux du public et des caméras du monde entier. Dans ce cas, il ne s'agit pas de culpabilité, car vous n'avez rien fait de mal. Mais il n'empêche que selon votre disposition d'esprit, vous pouvez éprouver un sentiment intense d'humiliation et de honte. Enfin, penchons-nous sur ce que j'appelle troisièmement un comportement déplacé. Supposons que vous avez été invité à une soirée et que vous découvrez à votre arrivée que vous vous êtes complètement trompé dans votre choix vestimentaire, car vous vous trouvez en jean. Eh bien là encore, en somme, vous n'avez rien fait de mal, et il ne s'agit pas de culpabilité. Vous avez juste commis un impair, une inconvenance qui vous plonge dans l'embarras et vous donne le sentiment d'être ridicule. C'est là aussi un type de honte. Un des aspects qui ressort très nettement de cette définition de la honte est que celle-ci est tantôt justifiée et tantôt injustifiée. Il y a en effet des situations où la honte est exactement le sentiment qui convient, et d'autres où ce n'est pas du tout le cas. La plupart d'entre nous s'accorderaient à dire que le menteur devrait tout de même avoir honte. Évidemment. Je répète, le menteur devrait vraiment avoir honte. Et à l'inverse, la plupart d'entre nous diraient probablement que le coureur de fond, qui a fait de son mieux, ne devrait absolument pas avoir honte, car ce n'est pas de sa faute. La déception serait une réaction saine, mais certainement pas la honte. J'aimerais maintenant illustrer ces deux types de honte à partir de l'Écriture sainte. La Sainte Bible montre très clairement la différence entre la honte qui convient de ressentir et celle qui ne devrait pas nous habiter. Je vais donc parler de honte appropriée et de honte inappropriée, ce qui n'est pas pareil. Comme tout autre sujet important, l'essentiel est de savoir quelle est la place de Dieu quand on fait l'expérience de ce sentiment. Donc, tout d'abord, voyons la honte inappropriée. La honte inappropriée, celle que nous ne devrions pas éprouver, c'est celle que nous ressentons sans raison valable. D'un point de vue biblique, cela signifie que le motif de notre honte n'est pas déshonorant envers Dieu, ou que s'il l'est, nous y sommes vraiment pour rien. Autrement dit, la honte inappropriée est une honte que nous ressentons à propos de quelque chose de bien, de quelque chose qui ne déshonore pas Dieu. Ou bien, c'est une honte à propos de quelque chose de mal, mais dont nous ne sommes en rien, on peut dire en rien responsable, car rien n'a été fait intentionnellement. C'est donc le type de honte que nous ne devrions pas éprouver. Maintenant, venons à la honte appropriée. La honte appropriée, celle que nous devrions éprouver, c'est celle que nous ressentons quand il y a une bonne raison à cela. D'un point de vue biblique, cela signifie que nous avons honte de quelque chose parce que notre implication personnelle a été déshonorante pour Dieu. Il est juste que nous éprouvions de la honte lorsque nous contribuons à porter atteinte, je dis bien, ou lorsque nous portons atteinte à l'honneur de Dieu, et cela par un acte ou par une attitude. Je tiens à m'assurer que vous avez bien compris l'importance de Dieu dans cette distinction entre la honte inappropriée et la honte appropriée. Donc, toute la différence, elle réside dans le fait que nous soyons ou non, que nous soyons ou non pour quelque chose dans ce qui a honoré ou ce qui a déshonoré Dieu. Si nous voulons combattre la honte à la racine, il nous faut savoir où elle se situe par rapport à Dieu. Or, le fait est, que nous avons absolument besoin de combattre la honte à la racine, de quelque nature qu'elle soit. Car la honte inappropriée, autant que la honte appropriée, peuvent nous paralyser. Oh oui, cela peut nous paralyser si nous ne savons comment nous y prendre pour les attaquer à la racine. Pour nous aider dans notre combat, penchons-nous un peu sur quelques passages bibliques qui illustrent chacun de ces deux types de honte. Il est bon de prendre conscience que ces deux catégories se trouvent en fait dans la Sainte Bible. Et oui, à notre époque, où la psychologie a une énorme influence sur la manière dont on emploie les mots, nous devons veiller à bien être en mesure d'évaluer tout le vocabulaire relatif à nos émotions et nous référons aux façons de penser et de s'exprimer qui se trouvent dans la Sainte Bible. Si l'usage que vous faites du terme « honte » s'inspire des thèses de la psychologie contemporaine, eh bien gardez bien en l'esprit que je ne l'emploie pas dans le même sens. Et vous constaterez sans doute que la Sainte Bible n'utilise pas le concept « honte » comme on l'entend communément. Une fois que les termes bibliques seront bien clairs dans votre esprit, eh bien vous serez en mesure d'évaluer la façon dont l'homme moderne parle de la honte. Il est donc important d'analyser tout d'abord, à nouveau, quelques exemples bibliques de honte inappropriée. L'apôtre Paul explique à Timothée que s'il a honte de témoigner de l'Évangile, cette honte est inappropriée. Car n'ayez donc pas honte, lui dit-il dans 2 Timothée chapitre 1 verset 8, n'ayez donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'ayez pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Bien au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile selon la force que Dieu donne. J'ai dit 2 Timothée chapitre 1 verset 8. Nous ne devons pas avoir honte de l'Évangile, oh non. Le Christ est honoré lorsque nous disons du bien de lui. À l'inverse, nous le déshonorons si nous gardons le silence par crainte. S'il y a lieu d'avoir honte, c'est donc non pas de rendre témoignage, mais de ne pas le faire. Le même verset dit que si nous avons honte de ce que un de nos amis se trouve en prison à cause de Jésus, alors notre honte est inappropriée. Le monde peut bien considérer qu'être emprisonné pour le Christ est un signe de faiblesse et d'échec. Les chrétiens savent que ce n'est pas le cas du tout. Dieu est honoré par le courage de ses serviteurs qui sont prêts à aller en prison en son nom, dès lors que leur comportement a été empreint de droiture et d'amour. Nous ne devrions donc pas avoir honte d'être associés à quelque chose qui honore Dieu de cette manière-là. Donc, peu importe tout le mépris dont nous accable le monde autour de nous. Une citation bien connue de Jésus nous montre très clairement que notre attitude est inappropriée lorsque nous avons honte de sa personne ou de ses paroles. Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, au milieu des hommes de ce temps qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Notez Saint Marc, j'ai bien dit, chapitre 8, verset 38. Par exemple, quand Jésus dit « Aimez vos ennemis », nous ne devrions pas avoir honte si on se moque de nous et qu'on nous traite d'utopistes, un peu comme si nous étions un peu débiles. De même, quand il dit « Ne vous livrez pas à la fornication », nous ne devrions pas avoir honte de nous rallier à lui-même si les gens demeurent faciles. Affirme que ce commandement est complètement dépassé de nos jours. Tout sentiment de honte serait donc inapproprié car les paroles de Jésus sont vraies et ils honorent Dieu, peu importe à quel point le monde essaye de les tourner en ridicule. Souffrir et être la cible de reproches et de moquerie parce que l'on est chrétien ne devrait pas conduire à la honte mais plutôt à glorifier Dieu. Je répète pour que ce soit bien compris, souffrir et être la cible de reproches et de moquerie parce que l'on est chrétien ne devrait pas conduire à la honte mais à glorifier Dieu. Alléluia. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en rougisse pas, mais qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de son saint nom, 1er épître de Pierre, chapitre 4, verset 16. Autrement dit, dans la Sainte Bible, le critère pour déterminer si un sentiment de honte est approprié ou inapproprié n'est pas de savoir si nous sommes ridicules ou condamnables aux yeux des hommes, mais si notre attitude rend un non-honneur à Dieu. C'est ça qui est important. Chers amis, de qui l'honneur est-il en jeu? Il s'agit d'une question extrêmement importante, car le plus souvent, le sentiment de honte que nous éprouvons n'a pour origine le fait d'avoir déshonoré Dieu par nos actes, mais plutôt de ne pas avoir été à la hauteur du personnage que les autres admirent en nous. En effet, bien souvent, ce n'est pas autour de Dieu que tourne notre honte, mais autour de notre personne. Tant que nous n'aurons pas parfaitement saisi tout cela, nous ne serons pas en mesure d'attaquer le problème de la honte à la racine. La honte du chrétien est souvent générée par ce que pense de ce que pense l'homme plutôt de ce que pense Dieu. J'ai un peu la langue qui a fourché. Je répète, la honte du chrétien est souvent générée par ce que pense l'homme, plutôt que ce que pense Dieu. Si seulement nous prenions conscience au fond de nous-mêmes que l'opinion de Dieu est infiniment plus importante que celle de n'importe quel homme, nous n'aurions là pas honte de choses qui sont tellement formidables qu'elles sont présentées comme étant la puissance même de Dieu. La Sainte Bible dit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut. » Oui, pour le salut de quiconque croit. Romains, chapitre 1, verset 16. Je prends parfois des versets dans mes versions bibliques, comme la Mülheimer ou d'autres versions qui sont exceptionnelles. Mais rassurez-vous, c'est à peu près pareil chez vous. Il n'y a que les synonymes qui changent. Donc, je répète pour que vous puissiez retrouver, car la Bible dit, car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains, chapitre 1, verset 16. Ce verset, il nous indique une autre raison pour laquelle il serait déplacé d'avoir honte de l'Évangile. Car l'Évangile, c'est la puissance de Dieu qui sauve qui ? Qui sauve l'homme. L'Évangile manifeste la gloire de Dieu en rappelant l'humanité de l'homme. Certes, aux yeux du monde, l'Évangile est loin d'apparaître comme une puissance. Demander à l'homme d'être comme un enfant et l'appeler à s'en remettre entièrement à Jésus, au lieu de compter sur ses propres forces, eh bien cela ressemble plutôt à de la faiblesse. Mais, pour celui qui croit, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu qui donne aux pécheurs une gloire éternelle. Je répète, mais pour celui qui croit, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu qui donne aux pécheurs une gloire éternelle. Si nous avons tendance à avoir honte même de la puissance de Jésus, c'est notamment parce que la façon dont elle se manifeste n'est justement pas du tout un signe de puissance aux yeux du monde. L'apôtre Paul, il a écrit... En effet, il a écrit en 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9, « Mais Jésus m'a répondu que ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » Et voici la réaction de l'apôtre Paul à cette bien étrange démonstration de puissance. Et c'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, ça paraît bizarre, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure vraiment pour mon Sauveur Jésus-Christ. Oui, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 à 10. D'habitude, la faiblesse et les insultes suscitent la honte, mais pour l'apôtre Paul, ce sont des motifs d'exultation. L'apôtre Paul est convaincu que avoir honte d'être faible et persécuté, ce serait totalement déplacé. Pourquoi ? Parce que c'est précisément dans sa faiblesse que se manifeste pleinement la puissance de Jésus-Christ. Cette affirmation, ainsi que tous les textes cités, m'amène à conclure que Dieu est le véritable critère biblique pour savoir si un sentiment de honte est approprié ou non. Le message de la Sainte Bible est le suivant : n'ayez pas honte de quelque chose qui honore Dieu, mais importe à quel point, peu importe à quel point, vous pouvez paraître faible ou ridicule aux yeux des incroyants. Je répète, le message de la Sainte Bible est donc le suivant : n'ayez pas honte de quelque chose qui honore Dieu, peu importe à quel point vous pouvez paraître faible ou ridicule aux yeux des incroyants. Voici maintenant quelques exemples bibliques de honte appropriée. L'étude des passages qui illustrent la honte appropriée fait apparaître que, là encore, c'est avant tout Dieu qui doit être notre critère d'évaluation. C'est vraiment ça le critère. C'est Dieu uniquement. Et voici en quelques termes, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens qui doutaient, par exemple, de la résurrection. Même aujourd'hui, oh oui, il y a la réincarnation, mais il n'y a pas la résurrection. Je répète, l'apôtre Paul exhorte donc les chrétiens qui doutaient de la résurrection. Revenez une fois pour toutes à votre bon sens et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu du tout. Je le dis à votre honte, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. Alors l'apôtre Paul leur déclare avec beaucoup de force qu'ils devraient avoir honte. Je le dis à votre honte. Leur sentiment de honte serait parfaitement approprié s'ils prenaient conscience de leur regrettable méconnaissance de Dieu et des conséquences qu'elle entraîne au sein même de l'Église. Fausse doctrine, la remise en cause de la résurrection, par exemple, tout cela, on dit que c'est un péché. Nous voyons donc que la honte, elle est appropriée lorsque elle est suscitée par ce qui déshonore Dieu, comme par exemple la méconnaissance de Dieu, le péché contre Dieu, et ainsi que les fausses croyances au sujet de Dieu. Dans la même assemblée, certains croyants allaient plaider devant les tribunaux des hommes pour régler des conflits entre eux. L'apôtre Paul les reprend avec beaucoup de force. Je le dis à votre honte, n'y a-t-il vraiment pas un seul homme sage parmi vous qui puisse servir d'arbitre entre ses frères. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 5. Eh bien là encore, il leur dit qu'ils devraient avoir honte. Je le dis à votre honte. Dans ce cas, un sentiment de honte serait tout à fait approprié à cause de l'énorme discrédit que jette leur comportement sur leur Dieu. En effet, ces chrétiens vont trouver des juges incroyants, par exemple, dans le but de régler les conflits qui les opposent. La honte, elle est appropriée lorsqu'elle est suscitée par un comportement qui déshonore Dieu. Ces chrétiens cherchaient par tous les moyens à faire valoir leur pouvoir et leur point de vue. Ils voulaient que des hommes leur donnent raison. Ils voulaient avoir gain de cause devant un tribunal d'hommes. Ils ne voulaient pas être écrasés par quiconque, comme s'ils avaient été dépourvus de droit. Cela aurait été un signe de faiblesse et de déshonneur. Par conséquent, c'était précisément en voulant éviter la honte telle que le conçoit le monde qu'ils étaient tombés dans l'attitude même que Dieu juge honteuse. La conclusion est la suivante. Il est juste que nous éprouvions de la honte lorsque nous déshonorons Dieu. Peu importe donc à quel point nous pouvons paraître forts, sages ou même comme ayant raison aux yeux du monde. Quand les yeux du chrétien s'ouvrent sur son comportement antérieur et qu'il prend conscience à quel point celui-ci était mauvais et déshonorant pour Dieu, c'est à juste titre qu'ils éprouvent de la honte. Voici ce que l'apôtre Paul écrit à l'église de Rome. Il dit « Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Or, quel fruit portiez-vous alors ? Des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. » Romains, chapitre 6, versets 20 et 21. Il y a donc une juste manière de regarder en arrière et de ressentir ce petit pincement douloureux à la pensée que notre mode de vie d'autrefois n'était vraiment pas du tout à l'honneur de Dieu. Nous verrons dans quelques instants que nous ne devons pas être paralysés en nous attendant sur cette pensée-là. Néanmoins, le chrétien qui a le cœur un tant soit peu sensible, ne peut se remémorer les folies de sa jeunesse sans que résonne encore en lui cette honte initiale, même s'il l'a complètement réglée avec le Seigneur. Lorsque elle est appropriée, la honte peut donc être tout à fait saine et rédemptrice. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens, « Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui pour qu'ils en éprouvent la honte. » 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 14. C'est donc bel et bien la preuve que la honte est une étape juste et rédemptrice de la conversion, mais aussi du processus de repentance, la repentance du croyant après une période de cette sécheresse spirituelle en des péchés. La honte n'est donc pas à éviter à tout prix. Elle a sa place, évidemment, dans la relation bienveillante de Dieu avec ses enfants. Les passages que nous avons cités jusqu'ici permettent de conclure que c'est véritablement Dieu qui doit être notre critère pour savoir si un sentiment de honte est approprié ou non. Pour ce qui est de la honte inappropriée, le critère biblique est le suivant. nous ne devons pas avoir honte de quelque chose qui honore Dieu. Peu importe à quel point nous pouvons paraître faibles, ridicules ou comme ayant tort aux yeux des autres. Et nous ne devons pas prendre sur nous la honte que mérite véritablement une situation si nous ne sommes pas réellement mêlés à ce qui est condamnable. Pour ce qui est de la honte appropriée, le critère biblique est le suivant. Nous devons avoir honte si nous avons une responsabilité dans quelque chose qui déshonore Dieu, peu importe à quel point nous pouvons paraître forts, sages ou comme ayant raison aux yeux des hommes. Question très sérieuse. Comment combattre cette forme d'incrédulité que est la honte inappropriée? Partons de là, et puisque notre objectif est de vivre par la foi dans la grâce à venir, il convient de nous poser cette question cruciale. Comment combattre ce sentiment douloureux que l'on appelle la honte? La réponse est la suivante. Nous devons la combattre à la racine déjà, c'est-à-dire en nous attaquant à l'incrédulité qui la nourrit. Nous devons donc cultiver la foi dans les promesses de Dieu qui proclame la victoire sur la honte et sur la souffrance qu'elle engendre. Je vais m'efforcer, si je peux, d'illustrer ce combat par trois exemples. Premièrement, nous avons la grâce à venir offerte à une prostituée pardonnée. Donc, premièrement, pour ce qui est de la honte appropriée, la souffrance, elle doit exister, mais elle ne doit pas subsister. Mais elle ne doit pas subsister. Si elle subsiste, cela dénote donc un manque de foi dans les promesses de Dieu. Par exemple, alors que Jésus se trouvait chez un pharisien, voilà qu'une femme entra et pleurant abondamment, se mit à lui laver les pieds avec ses larmes. Il ne fait aucun doute qu'elle éprouva de la honte lorsque le regard de Simon indiqua à tous les convives que cette femme était une pécheresse et que Jésus ne devrait pas lui permettre de la toucher. Elle était, comme on dirait aujourd'hui, une adepte de la Reeperbahn de Hambourg. Vous avez compris ce que ça veut dire. Ou dit Niederdorf à Zurich. Effectivement, voyez-vous, c'était une pécheresse. Elle avait donc tout lieu d'avoir réellement honte. Mais alléluia, alléluia, pas pendant trop longtemps. Car Jésus lui dit, écoute bien, tes péchés te sont maintenant pardonnés. Saint Luc chapitre 7 verset 48. Et lorsque les autres invités se mirent à murmurer en entendant ces paroles, il renforça davantage encore sa foi en lui déclarant « Parce que tu as cru en moi, tu es maintenant sauvé. » Va maintenant en paix. Aie donc la paix dans ton cœur. Saint Luc chapitre 7 verset 50. Chers amis, comment Jésus a-t-il aidé cette femme à lutter contre les effets paralysants de la honte? Jésus lui annonça une promesse. « Tes péchés te sont pardonnés, car ta foi t'a vraiment sauvé. Tes péchés te sont pardonnés, car ta foi t'a sauvé. Tu auras maintenant un avenir de paix. » Oui, c'est merveilleux. Cette femme, elle est devenue semblable à une Josiane et à une Ruth, et Jésus l'a aussi fait pour moi en son temps, moi Henri. Jésus déclare que le pardon passé allait à présent produire une paix future. Donc, pour elle, la question était d'avoir foi en cette grâce à venir ancrée dans l'autorité de l'œuvre rédemptrice et de la parole libératrice de Jésus. Chers amis, allait-elle croire? Allait-elle croire les funestes paroles de condamnation des convives? Où allait-elle croire les paroles rassurantes de Jésus qui lui annonçait que c'en était absolument fini de sa honte et qu'elle était pardonnée dès à présent et à l'avenir et qu'elle pouvait aller en paix, en liberté et en nouveauté de vie? À qui allait-elle faire confiance? Avec la promesse de qui allait-elle apporter maintenant le contentement en son âme? Eh bien, c'est ainsi que chacun de nous doit combattre les effets d'un sentiment de honte, même justifié, qui menace de s'installer et de nous paralyser. Nous devons combattre l'incrédulité en nous attachant aux promesses de grâce et de paix à venir qui nous sont offertes par le pardon de nos actes honteux. Oui, et Jésus, je répète, l'a aussi fait pour moi, pour Henri. Mais le pardon, il se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne, nous est-il dit dans le psaume 130, verset 4. Tournez-vous donc vers l'Éternel, tant qu'on peut le trouver. Adressez-vous à lui, tant qu'il est proche. Que le coupable abandonne sa voie, et l'homme malfaisant ses mauvaises pensées. Et qu'il revienne maintenant à l'Éternel, qui aura compassion de lui. Oui, à notre Dieu qui lui accordera un pardon généreux. Ésaïe, chapitre 55, versets 6 et 7. Si nous reconnaissons nos péchés, il est Dieu, notre Papa céleste. Il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Premier épître de Saint Jean, chapitre 1, verset 9. Tout homme qui croit en lui, en Jésus, reçoit par lui, par Jésus, le pardon de ses péchés. Actes, chapitre 10, verset 43. Peu importe donc que l'acte de pardon de Dieu appartienne entièrement au passé, ou bien qu'un pardon renouvelé nous soit promis pour l'avenir. Dans les deux cas, il s'agit de la puissance libératrice du pardon de Dieu pour notre avenir, c'est-à-dire de la liberté par rapport à la honte. Le pardon est donc rempli de la grâce à venir, quand nous vivons par la foi dans la grâce à venir, nous sommes libérés des effets durables et paralysants de la honte, même lorsque celle-ci est justifiée. Alléluia. Le deuxième cas de figure où il nous faut combattre la honte, c'est lorsque celle-ci est suscitée par quelque chose qui n'est même pas condamnable, comme par exemple Jésus ou l'Évangile. Nous voyons en 2 Timothée, chapitre 1, verset 12, comment l'apôtre Paul a combattu cette honte inappropriée. Il déclare, en effet, « Et pour cette cause j'endure ces souffrances, mais je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Dans ce passage, l'apôtre Paul dit très clairement que le combat contre la honte inappropriée est un combat contre l'incrédulité. Je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis convaincu qu'il a, lui, Jésus, la puissance de me protéger. Pour combattre les sentiments de honte que nous pouvons éprouver à propos du Jésus, de Jésus-Christ, ainsi que de l'Évangile et des valeurs chrétiennes, eh bien nous devons lutter pour la foi dans la grâce de Dieu à venir. Croyons-nous réellement que l'Évangile est la puissance de Dieu pour notre salut? Croyons-nous que la puissance du Christ se manifeste pleinement dans notre faiblesse? Croyons-nous réellement qu'à la place des railleries, des moqueries, c'est une gloire éternelle qui nous attend? Croyons-nous qu'il va nous garder en vue de ce grand jour? Combattre la honte inappropriée, c'est s'efforcer de vivre par la foi dans l'excellence et dans la gloire de la grâce à venir. Troisièmement, nous devons combattre la honte lorsque l'on essaye de nous faire porter la responsabilité de choses condamnables, alors qu'en réalité nous n'avons absolument rien déshonoré Dieu. En rien nous avons déshonoré notre Papa Céleste. Eh bien c'est là quelque chose de très fréquent. Je pense que le diagnostic psychologique le plus courant pour expliquer l'existence de troubles affectifs, c'est le fait d'avoir grandi dans une famille où règne une culture de la honte. Il est en effet possible de faire porter avec insistance à quelqu'un une honte qui ne lui appartient pas du tout. La vie par la foi dans la grâce à venir, elle a donc aussi pour but de libérer ceux qui ont été profondément blessés en ayant assumé ce type de honte inappropriée. Eh bien, tout cela m'a beaucoup encouragé de constater que Jésus avait subi à maintes reprises ce genre d'expérience. Par exemple, on le taxa de gloutonnerie et d'ivrognerie, selon Saint-Luc chapitre 7, verset 34. On a accusé Jésus de vouloir détruire le temple, Saint Marc chapitre 14, verset 58. On traita Jésus d'hypocrite, lui qui avait sauvé les autres, ne pouvait-il pas se sauver lui-même? Saint Luc chapitre 23, verset 35. Tous ces propos avaient pour but de faire porter à Jésus une honte qu'il n'avait pas du tout à assumer. Ses détracteurs espéraient parvenir à le décourager et à le paralyser en l'accablant d'accusations honteuses. L'apôtre Paul vécut la même chose. Oui, on traita l'apôtre Paul de fou lorsqu'il plaida pour se défendre au tribunal. Actes chapitre 26, verset 24. On l'accusa d'être un ennemi des coutumes juives et de transgresser la loi de Moïse. Actes chapitre 21, verset 21. On lui reprocha d'enseigner que l'homme devait pécher afin que la grâce abonde. Romains chapitre 3, verset 8. Ses détracteurs affirmèrent tout cela en tordant les Saintes Écritures pour le charger d'une honte qu'il n'avait pas du tout à assumer. Par conséquent, comment combattre cette honte inappropriée? Il faut la combattre par la foi dans les promesses de Dieu, selon lesquelles, au bout du compte, tous les efforts visant à nous faire honte vont échouer. Nous terminerons notre étude en disant que certes, il se peut très bien que nous ayons du mal à faire la part des choses entre la honte que nous devons assumer et celle que nous n'avons pas à assumer du tout. Mais Dieu a pour nous une promesse qui s'applique à ces deux cas de figure. Ésaïe promet en effet à tous ceux qui placent leur confiance en Dieu, il dit: vous ne serez ni honteux ni confus jusque dans l'éternité. Ésaïe 45, verset 17. Quant à l'apôtre Paul, il reprend cette promesse de l'Ancien Testament et il l'applique aux chrétiens. Celui qui croit en lui, en Jésus-Christ, il ne sera pas couvert de honte. Romains chapitre 10, verset 11. Autrement dit, et nous terminons, malgré tout ce qui peut être utilisé contre nous pour nous faire honte, la méchanceté, les railleries, les critiques, et malgré toute la détresse et la souffrance morale que cela engendre en nous, eh bien la promesse de Dieu n'en demeure pas moins certaine. Au bout de compte, ces tentatives, elles seront vaines, car les enfants de Dieu, ils obtiendront tous gain de cause. La vérité apparaîtra et la honte n'aura pas raison de ceux qui mettent leur espoir dans les promesses de Dieu. Vive donc, vivre par la foi, oui, vivre par la foi dans la grâce à venir, je dis bien, et vous l'avez entendu, c'est de vivre en étant libéré des effets paralysants de la honte. Amen. Et chers amis, maintenant, je voudrais vous transmettre quelque chose que l'Esprit-Saint m'a donné pour vous encourager, mais aussi pour votre enseignement personnel. Écoutez bien. Parle, Seigneur, parce que ton serviteur écoute. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence afin que je sache des témoignages. Incline mon cœur aux paroles de ta bouche, qu'elles tombent sur lui comme une douce rosée. Je t'implore, comme le prophète Samuel, avec un humble désir, disant « Parle, Seigneur, parce que ton serviteur écoute. Que Moïse ne me parle point, ni aucun des prophètes, mais toi, plutôt, parle, ô Seigneur mon Dieu, toi qui es la lumière de tous les prophètes, qui es l'Esprit qui les inspirait. Sans eux, tu peux seul pénétrer toute mon âme de ta vérité, et sans toi, ils ne pourraient rien. Ils peuvent prononcer des paroles, mais non les rendre efficaces. Leur langage est sublime, mais si tu te tais, ils n'échauffent point le cœur. Ils exposent la lettre, mais toi, tu en découvres le sens. Ils proposent les mystères, mais toi, tu rompes le sceau qui en dérobait l'intelligence. Ils publient tes commandements, mais toi, tu aides à les accomplir, Ils montrent ta voie, mais tu donnes des forces pour marcher. Ils n'agissent que au dehors, mais toi, tu éclaires et tu instruis le cœur, les cœurs. Ils arrosent extérieurement, mais toi, tu donnes la fécondité. Leur parole frappe l'oreille, mais tu ouvres l'intelligence. Mais toi, Seigneur, Seigneur mon Dieu, éternelle vérité, parle-moi de peur que je ne meure. Oui, parle-moi donc, Seigneur, parce que ton serviteur écoute, car tu as les paroles de la vie éternelle. Pour la louange, la gloire et l'honneur éternel de ton saint nom. Amen. Et maintenant, prions une petite prière ensemble. Prions. Ô Seigneur Dieu de sainteté, fais naître en nous, une foi vivante en ton Fils Jésus-Christ, et sois toi-même notre rocher et notre forteresse. Oui, fais luire en nous aussi quelque chose de la joie victorieuse et de la foi triomphante qui ont transfiguré le visage de ton Fils bien-aimé. Amen. Et j'aimerais maintenant essayer maladroitement de vous transmettre un ou deux chants d'un très lointain passé. Cette fois, c'est 1951. Oh là là, j'étais un tout jeune homme en ce temps-là. Et comment? Mais bien entendu, les enregistrements se faisaient pas comme aujourd'hui. C'était à bande, avec un Revox. Et ensuite, j'ai plus tard transmis tout cela sur des cassettes et maintenant sur des CD. Alors tout cela a perdu beaucoup de sa netteté. Et parfois, il y a même des ratés. J'espère que vous comprendrez. Et nous nous reverrons demain matin pour la suite de cette série très, très importante de la sainteté. Alléluia. Alléluia.
I trust in God wherever I may be, upon the land or on the rolling sea. For come what may, from day to day, my heavenly Father watches over me. I trust in God, Heavenly Father who watches over me. He makes the rose an object of his care. He guides the eagle through the pathless air. And surely he remembers me, my heavenly Father watches over me.
Out in sin, but he came back to to Rome upon his son, the merry man is gone. The prodigals of dancing shoes to match his dancing eyes. Complained it wasn't fair. He hadn't got a dancing heart like all the others there.
Oh, the Holy Ghost will set the beat a dance.